RFI Matin, la suite, on continue de suivre, évidemment, l'escalade entre Israël et l'Iran. Mais tout de suite, c'est notre reportage international, on part en Inde. C'est une poudre rouge dont les épouses hindoues parlent la racine de leurs cheveux. Son nom, Sindoor, est devenu il y a un mois celui de l'opération militaire indienne qui a frappé le Pakistan en réponse à l'attentat terroriste qui a endeuillé le Cachemire indien au mois d'avril. L'escalade éclair entre les deux pays était la pire de ces dernières décennies. Un cessez-le-feu est venu l'interrompre. Mais depuis, en Inde, la mode s'est teintée de patriotisme avec des t-shirts, des casquettes, des produits dérivés aux couleurs de l'opération. Reportage Léa Ojal.
Gourdes, enceintes et surtout vêtements au message bien tranché, ici, le nationalisme s'affiche en grand. En tête des ventes en ce moment, un t-shirt blanc barré d'un rouge éclatant avec l'inscription « Opération Sindoor ». Pour le créateur de la marque, ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est une façon assumée de revendiquer son patriotisme.
This design is not just about
fashion. Ce design ne relève pas seulement de la mode. Il rend hommage au courage et au sacrifice de nos soldats tout en sensibilisant aux réalités auxquelles ils sont confrontés. L'opération Sindoor symbolise le courage, le patriotisme et l'esprit de l'Inde.
And the spirit of India.
Dans ce quartier riche du sud de New Delhi, même les écrans publicitaires diffusent des visuels glorifiant l'opération militaire indienne, un élan patriotique que Kashish assume pleinement.
One of the time definitely I will.
Un jour, c'est sûr, je voudrais porter ce t-shirt. L'opération Sindoor est l'une des plus grandes opérations que l'Inde ait menée jusqu'à présent, ou même dans toute une vie. On peut vraiment le dire.
Sur Internet, comme dans les rayons des librairies, le nationalisme indien est omniprésent. Ramesh, libraire, constate une hausse des ventes de livres sur les conflits passés.
Après Sindoor, les livres sur les guerres de 1965 et 1971 sont très demandés.
C'est en fait le gouvernement indien qui est à l'origine de cette communication minutieuse pour susciter un fort sentiment nationaliste. Kunal Purohit, auteur et journaliste indien.
Je pense que c'est à ce moment-là que le gouvernement indien a très habilement pris la décision de rendre cette opération militaire vendable, de la présenter de manière compréhensible et accessible pour le public national, en l'appelant tout d'abord l'opération Sindoor. Ce nom vise encore une fois à toucher une corde sensible émotionnelle chez le public indien en disant que l'opération a été lancée pour venger la perte des maris de ces femmes qui se trouvaient au Cachemire au moment de l'attentat. Construire une narration autour de cette opération de contre-terrorisme a donc été crucial pour le gouvernement indien.
Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi s'est emparé des codes de la culture populaire pour imprimer sa vision. Clips musicaux, films patriotiques, slogans viraux, tout est bon pour ancrer sa vision dans l'imaginaire collectif indien. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Reportage en Inde à retrouver sur RFI.fr.
RFI Matin.
C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 14 juin 1995 à Brazzaville. L'écrivain, poète et dramaturge congolais Sonny Labutansi s'éteignait. La mort d'un auteur majeur dont l'œuvre satirique est engagée à dénoncer la corruption et la dictature. Qui était-il? Qu'a-t-il écrit? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Xavier Garnier, professeur de littérature française et francophone à l'Université Sorbonne Nouvelle de Paris. Il est au micro de Laurent Corot.
Bonjour Xavier Garnier.
Bonjour.
Qu'est-ce qui, dans le travail de Sonny Labutansi, a fait de lui l'un des grands auteurs de la littérature africaine du XXe siècle?
Il fait partie de cette génération des écrivains africains qui sont arrivés sur la scène littéraire dans les années 70 et qui ont rompu avec... Un pli qui avait été pris depuis l'époque coloniale, notamment sous l'égide de personnes du mouvement de la négritude, de grands écrivains comme Senghor, qui avaient comme souci de présenter l'Afrique à l'Europe. Sonny Labutansi, c'était pas son problème. Son problème, c'était de crier l'Afrique, de dire l'Afrique de là où il était. Cette littérature qui se réclame d'une expérience vécue, ça a été une forme de rupture et c'est ça qui donne sa puissance à ses textes.
Il a une langue aussi très forte, très violente presque.
Voilà, il était d'une famille absolument pas aisée et donc il a connu des grandes misères économiques, mais aussi des violences politiques. Ça a forgé un style. Il dit de l'art que c'est un exercice radical de lucidité. Il cherche vraiment par son écriture, à être le plus fidèle possible à l'expérience qui est la sienne.
Et quels ont été justement ses combats? Qu'est-ce qu'il a cherché à dénoncer dans son écriture?
Il est très connu pour son premier roman qui a été publié en France, qui s'appelle La vie ennemie, qu'on a à juste titre d'ailleurs présenté comme un roman qui dit les dictatures postcoloniales, donc qui dit la violence politique. Donc ça, c'est un versant important de son œuvre. Le roman auquel il tenait le plus, d'ailleurs, qui n'avait pas été publié tel quel, mais qui avait comme titre dans le manuscrit « Machin la hernie », c'est un roman d'une puissance extraordinaire, a été reçu en Europe comme une dénonciation de la dictature. Et ça l'a un peu agacé, ça l'a même beaucoup agacé, en fait, en disant « Mais non, c'est pas ça que je fais. Moi, ce que je veux faire, c'est épouser l'expérience du pouvoir dictatorial et de toute la violence qui va avec. »
Ce qui est frappant aussi dans l'œuvre de Sonny Labutanti, c'est qu'il a des engagements contre la surexploitation minière aussi, qui sont finalement très, très contemporains, très actuels.
Oui, absolument. Ça, c'est explicite dans son théâtre. Il y a une pièce qui s'appelle Le Trou, qui parle de la prospection pétrolière, à l'époque de Sassoon Nguesso, d'ailleurs. Déjà, au moment où le jeune Sassoon Nguesso a ouvert le pays à Elf et à la prospection pétrolière, il y a aussi la déforestation qui est très présente dans une pièce qui s'appelle Monologue d'or et d'argent, qui est une de ses dernières pièces, où il est question d'un arbre plurimillénaire que, alors, des Américains, alors en l'occurrence les Américasseurs, veulent déterrer et veulent l'emmener dans un parc naturel aux États-Unis, dans une région protégée, sous prétexte qu'en Afrique, il va dépérir. Et cet arbre est protégé par un vieillard et un enfant dans un village qui a été complètement vidé de sa population par un exode rural.
Quels sont ses textes les plus connus? Que disent-ils?
C'est le premier roman, donc La vie ennemie, qui raconte cette dynastie de dictature accueillie comme une sorte d'événement, de révolution stylistique. Après, son théâtre a été extrêmement joué. Il avait une troupe de théâtre à lui qui répétait et qui travaillait à Brazzaville, mais qui a beaucoup tourné à travers le monde, notamment au Festival de Limoges. Sa poésie de son vivant a été publiée de façon très, très éparse, alors que sa poésie était immense. Et donc, tout a été rassemblé pour les 20 ans de son décès en 2015. Un travail exceptionnel, parce qu'on voit vraiment les poèmes évoluer. Les poèmes, il les reprenait d'année en année. Et on voit les poèmes évoluer dans cette poésie complète.
Dans l'œuvre de Sonny Labutanti, il y a la partie émergée de l'iceberg, ce qui a été publié, qu'on connaît, mais il y a toute une partie inconnue du travail de Sonny Labutanti qui est extrêmement importante, qui sont des textes donnés de la main, à des relations, à des connaissances, à des amis.
Pour lui, la conception qu'il avait de l'écriture, il insiste beaucoup sur le terme de contact, de toucher. Il veut toucher les gens. D'ailleurs, on a beaucoup caractérisé sa littérature comme ça, comme une littérature d'interpellation. Il s'adresse à son lecteur. Et donc, cette circulation des manuscrits, c'est une façon de toucher. Il les donne physiquement de main à main. La façon dont il s'adresse aux personnes à qui il donne les manuscrits et d'attendre aussi un retour et l'attention qu'il avait aussi au retour qu'on pouvait lui donner. Cette question de la vie des manuscrits, je trouve que c'est central pour comprendre la façon dont il voyait sa création littéraire, qui est d'abord une écriture avec. Et en ce sens, c'est un écrivain très éthique. C'est-à-dire, il écrit pour l'humanité, c'est un grand mot, mais derrière l'humanité, il veut parler du lien social. Et il met dans l'humanité aussi le monde végétal de la grande forêt équatoriale. Et là, on retrouve l'écologiste d'une certaine façon. Le monde animal, il veut faire société. Et faire société avec les gens, c'est être en contact avec eux.
Xavier Garnier, merci.
Le professeur de littérature Xavier Garnier, invité RFI de Laurent Corot, 30 ans après la mort de Sonny Labutanti. C'est un entretien que vous retrouvez en ligne, en version longue.
RFI à Freetown, 89.9 FM.
Et dans notre reportage Afrique ce matin, au lendemain de la fin de la conférence de l'ONU sur l'océan, cap à nouveau sur la Sierra Leone, l'un des pays les plus exposés au monde à la montée des eaux et à l'érosion côtière. Nous sommes à nouveau sur l'île Plantin, où nous vous emmenions hier à quelques heures de bateau de la capitale Freetown. L'île qui comptait autrefois 5000 habitants s'est dépeuplée face à la montée rapide du niveau de la mer. Restent les plus pauvres qui n'ont nulle part où aller. Reportage Lisa Fabian.
L'histoire de l'île Plantin semble sur le point d'être effacée. Une partie des vestiges de cet ancien comptoir commercial portugais a déjà été engloutie par l'océan.
Je dirais qu'à peu près deux tiers de l'île ont disparu. Dans les années 70, les gens cultivaient la terre ici, mais ces champs n'existent plus. À l'époque, ils pouvaient aussi chasser des gros rongeurs, mais ces animaux, eux aussi, ont disparu.
Charles Barley est officier de la marine sierra-léonaise. Il vit à Shengue, la bourgade qui fait face à l'île de Plantin sur la côte.
Je dirais que presque 200 maisons ont disparu dans la mer. Il y avait 3 mosquées ici, mais il n'en reste plus qu'une. La FAO avait fait construire des bandas pour sécher le poisson, et ça aussi c'est parti.
Difficile de dire combien d'habitants vivent encore ici. À la pointe de l'île Plantin, une fine langue de sable permet de rejoindre les grandes huttes dans lesquelles le poisson est fumé. Afsatou dort dans l'un de ses bandas depuis qu'elle a perdu sa maison.
Il était minuit, toute la famille dormait, 15 personnes en tout. Quand une grosse vague est entrée d'un coup dans notre maison et a tout emporté. Nous aimerions partir d'ici car la terre est rétrécie et nous avons peur. Si j'avais de l'argent, je le ferais. Mais je n'ai aucune économie, sinon j'aimerais m'installer à Tombo, le gros port de pêche sur le continent.
Malgré le déclin de l'île, la plupart des jeunes continuent à devenir pêcheurs comme leur père, faute d'alternative. C'est le cas de Mohamed Dangoa.
J'ai étudié jusqu'au lycée, mais maintenant je vais en mer. Pourtant, il y a moins de poissons, car certains pêcheurs ont raclé les fonds avec leurs filets jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors nous sommes obligés d'aller très loin pour trouver du poisson. Certains de mes amis, qu'ils pouvaient, sont partis pour essayer de trouver un meilleur travail ailleurs dans le pays. Parce qu'ici, il n'y a rien.
Et certains effets du changement climatique ne sont pas visibles à l'œil nu, rappelle Henry David Bayo, qui travaille pour l'Agence de protection de l'environnement.
Avec l'érosion, l'eau salée s'est infiltrée et s'est mélangée à l'eau des nappes phréatiques. Donc, même trouver de l'eau potable sur l'île est devenu difficile. Ce qui a des implications sur la santé des habitants. On observe aussi des changements dans les courants marins, ce qui a des conséquences sur la pêche. Et puis le plancton, par exemple, ne survit pas à la hausse de la température de l'eau.
Un projet de restauration des mangroves est notamment à l'étude pour tenter de sauver ce qui reste de l'île Plantin avant que l'océan ne l'avale entièrement. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
Notre reportage africain Sierra Leone, bientôt 7h en temps universel et l'info continue sur RFI. On poursuit dans quelques minutes notre édition spéciale sur l'escalade entre l'Iran et Israël. Il est presque 9h. Ici à Paris.
RFI à Malabo-Ville, 88 FM. Malabo-Volcan, 97.5 FM. RFI Matin.
L'actualité des médias, comme chaque samedi. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour Julien.
Nous parlons avec vous du soutien à Israël dans sa guerre à Gaza, qui est de plus en plus mal accepté par les collectifs de journalistes en France.
Oui, cette fois, les sociétés de journalistes et les syndicats du groupe RMC-BFM ont réagi publiquement. Ils ont réclamé jeudi le retrait de leurs antennes de la chroniqueuse Barbara Lefebvre en raison de ses déclarations haineuses, je cite, sur Gaza. Cette enseignante et essayiste n'est pas une inconnue de la rédaction. En avril 2024, elle avait déjà déclaré sur l'antenne que les gens du voyage n'avaient pas les codes de la civilisation et qu'il fallait les renvoyer, je cite, au pays des gens du voyage, ce qui avait valu une mise en garde de l'ARCOM. Cette fois, c'est un ensemble de propos qui est en cause, d'abord sur i24 News en février, où elle a estimé qu'il fallait vider la bande de Gaza et que les civils de Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique, et que cela devra être payé au prix fort. Une sorte d'incitation au nettoyage ethnique qui avait entraîné sa convocation par la direction de RMC. La chroniqueuse avait été suspendue une quinzaine de jours, et voilà que le 20 mai, elle s'est vantée d'avoir assisté à un concert du chanteur israélien Eyal Golan, qui appelle à effacer Gaza. Pour la société des journalistes de RMC, on ne peut plus parler de dérapage malencontreux, mais bien d'apologie de crimes de guerre.
Et Barbara Lefebvre a aussi participé fin mai à un gala de soutien à l'armée israélienne.
Oui, dans ce gala organisé par le publicitaire Franck Tapiro, elle a animé un jeu concours où il s'agissait de deviner la proportion de Gazaouis tués par rapport à la population. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à participer à ce gala puisque Laurence Ferrari de CNews et Europe 1 en était l'invité d'honneur et on pouvait y retrouver aussi Franz-Olivier Gisbert du Point ou encore Gilles William Goldnadel. Cet avocat et chroniqueur de CNews n'a pas caché le fond de sa pensée quand il a dit qu'entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo.
Et ces déclarations sont, selon vous, le fait de chroniqueurs ou d'éditorialistes ?
Effectivement, on entend très souvent sur les chaînes d'infos privées des commentateurs qui ne sont que très rarement tournés vers la défense des Palestiniens. La flottille d'aide humanitaire avec Rima Hassan et Greta Thunberg a ainsi été suivie, mais aussitôt discréditée par Caroline Fourest sur LCI. Mais en même temps, les reporters de terrain, les spécialistes de l'international, mesurent bien l'ampleur des crimes commis par Israël, y compris contre les journalistes, pour les empêcher de témoigner.
Amaury de Rochegonde, merci beaucoup.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Jacques de Saint-Victor est un spécialiste des mafias. Dans son premier roman, Les Loups de Tanger, il raconte les prémices de la plus grande organisation française de trafic de drogue, la French Connection. Un récit dans lequel truands corso-marseillais, italiens, voire américains, se retrouvent pour passer du tabac à l'héroïne.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h40 TU, sur RFI.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.